Europe 1.
Franco a été le dernier des dictateurs européens. En refusant de participer activement à la Seconde Guerre mondiale et en refermant son pays sur lui-même, il s'est assuré une longévité exceptionnelle. Il a été le chef de l'État pendant presque 40 ans. Après la chute de la monarchie au début des années 1930, la Nouvelle République clive le pays entre partisans d'une gauche communiste ultra-violente et défenseurs des valeurs conservatrices prêts à toutes les exactions pour reprendre le pays. La révolution des généraux les plus conservateurs a permis à Franco de devenir dictateur. Lui, l'homme ambitieux et opportuniste, convaincu d'avoir été choisi par Dieu pour sauver l'Espagne. Je suis Virginie Giraud et je vous invite au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Franco, l'Espagne et Dieu.
Españoles, habréis llegado a la conclusión de que el interés de los españoles se centra hoy en asegurar para una larga y dilatada etapa otros muchos años de paz constructiva.
No es aimé profiter de la vie comme tant d'autres Espagnols, mais le service de la patrie accapare mes heures et occupe pas ma vie.
Épisode 1. Les ambitions d'une allumette. Nous sommes à la gare d'Andaye, une enclave entre la France et l'Espagne, le 23 octobre 1940. Il est 15h05. Le général Franco trépigne dans son wagon. Il voulait arriver en avance au point de rendez-vous avec Hitler pour l'accueillir, mais le réseau ferroviaire espagnol est en si mauvais état qu'il est en retard. Alors que son train s'arrête contre le quai, il peut déjà apercevoir derrière la vitre de son wagon Hitler avec sa moustache noire et sa grande casquette qui jette une ombre sur son regard perçant. Franco bondit de son train comme une amoureuse qui retrouve son amant au début d'une permission. Hitler lui tend la main droite. Le généralissime l'étreint de ses deux mains pour se montrer le plus chaleureux possible. Des photos sont prises, le Führer est jovial et Franco a les yeux de chimène. Les deux hommes remontent le quai bordé de rangées de militaires au garde-à-vous. Comme à son habitude, Hitler les salue en levant mollement la main droite. Au contraire, Franco a le bras bien tendu en un beau salut nazi. Enfin, les deux hommes montent dans le wagon du chef du Troisième Reich et s'installent devant une grande table. Hitler est venu jusque-là pour négocier l'entrée en guerre des Espagnols à ses côtés. Avec leur aide, il ne lui sera pas difficile d'écraser la Grande-Bretagne. Et surtout, le généralissime lui est redevable. Il lui a fourni une grande aide logistique pendant la guerre d'Espagne et l'a aidé à devenir le maître de son pays. Il n'a donc aucune raison de refuser de rendre l'appareil au Reich. Franco se met à son tour à parler. Il est volubile. Oui, il entrera en guerre aux côtés de l'Allemagne. Il n'y a qu'à se mettre d'accord sur des points de détail. Hitler écoute attentivement en faisant des de politesse. Quelques dizaines de minutes plus tard, Franco sort du wagon du Führer la mine sombre. Il confie à l'un de ses proches. « Ces types me dégoûtent !» Comment une entrevue qui commençait aussi bien a-t-elle pu si mal tourner ? Franco est un homme du 19e siècle. Il faut toujours garder cette information en tête si on veut comprendre le dictateur espagnol. Il est né le 4 décembre 1892 à Ferrol, une cité portuaire de Galice, dans une vieille famille de marins au service de leur pays depuis plus de 200 ans. Francisco Franco Bahamonde est un enfant chétif, très sérieux. Il est si maigre qu'on le surnomme Cerillita, la petite allumette. De l'aveu de sa propre sœur Pilar, il n'aime que deux choses dans la vie. Étudier et sa mère. Ah, sa mère, c'est le centre de son monde. C'est une femme espagnole austère, très pieuse, qui élève ses quatre enfants avec une immense rectitude morale, l'amour de la patrie et le sens de l'honneur. Bon, pas question de faire du Freud de comptoir, mais Franco aime autant sa mère qu'il déteste son père. Celui-ci est un haut gradé de la marine, mais il travaille maintenant dans une administration, ce qui n'est pas très glorieux à ses yeux. Mais surtout, il a ramené des colonies des vices insupportables, la luxure, le jeu et l'alcool. Pour le petit Franco, son père humilie sa mère et sa famille par son comportement. Mais un autre événement va heurter cet enfant au sens aigu de la morale. Un événement qui le dépasse. qu'en 1898, le royaume d'Espagne perd la seconde guerre hispano-américaine. Les journaux parlent de désastre. Les Américains prennent le contrôle de Cuba et de plusieurs colonies espagnoles dans les Caraïbes. Fini les champs de canne à sucre qui assuraient la prospérité du pays. À 6 ans, Franco assiste au retour d'une flotte en lambeaux au port de Ferrol. Si son Espagne est meurtrie, il l'est aussi. À 14 ans, Franco intègre une école militaire à Tolède. Ce gamin si fluet devient vite le souffre-douleur de ses camarades. Il est si gracile que pendant les entraînements, il manipule un fusil à canon scié. Les fusils normaux sont trop lourds pour lui. Tout ça nourrit chez lui un sentiment d'humiliation. Il ne veut pas être une petite chose fragile. Le mental devra tôt ou tard prendre le dessus sur le corps. Mais en attendant cette revanche, il sort de l'école en 1910 classé 251e sur 312. Pas de quoi pavoiser. Une carrière d'officier en Espagne n'est même pas envisageable, alors 2 ans plus tard, il s'engage au Maroc. Nous sommes à l'époque où l'Europe colonise le Maghreb. La France se taille la part du lion avec l'Algérie et l'Espagne tente de prendre possession d'un morceau du Maroc. Mais l'Allemagne et la Grande-Bretagne veulent aussi leur part. Ces rivalités ont fait de la région une véritable poudrière. Finalement, le Maroc devient en 1912 un protectorat français, mais l'Espagne obtient un sous-protectorat dans le nord du pays. Les Espagnols ne sont pas satisfaits. 5% du territoire marocain, c'est pas assez. La sécurisation de cette zone sous influence ibérique nécessite d'ailleurs la présence de l'armée en dépit de l'opinion publique pacifiste. En 1913, le jeune Franco rejoint les forces régulières indigènes formées en grande partie de mercenaires morts. Dans ce régiment, les hommes ne sont pas des tendres, et même si le jeune Franco n'a pas le physique d'un athlète, il se démarque très vite par son courage et son intrépidité. Il est toujours en première ligne et ne baisse jamais la tête sous les balles. C'est comme ça qu'il gagne le respect de ses hommes et monte rapidement en grade. Pour autant, il reste à distance des officiers qui se retrouvent pour boire. Franco ne veut pas ressembler à son père, cet alcoolique qu'il méprisait. Le 29 juin 1916, Franco se montre à nouveau héroïque lors de la bataille de Biouts. Il a acquis la conviction qu'il est protégé par Dieu et qu'il peut prendre tous les risques. Mais une balle lui traverse l'abdomen et le cloue au sol. Il remarque que le médecin de son régiment évacue les blessés, mais lui, il n'est orienté vers aucun convoi. Alors il apostrophe le médecin. Pourquoi lui, on l'emmène pas en ambulance ? Le médecin, qu'il appelle Franquito, lui explique que sa blessure est trop grave et qu'il n'a aucune chance de s'en sortir. En entendant ces mots, Franco attrape un fusil à côté de lui et le pointe sur le médecin. S'il n'est pas évacué immédiatement, lui aussi, il va se prendre une balle dans le ventre. Et c'est ainsi que Franco est évacué et soigné. Il poursuit sa carrière en Afrique jusqu'en 1926. Quand il rentre en Espagne, Franco est le plus jeune général d'Europe depuis Napoléon. Il est présenté par les médias comme un héros et épouse Carmen Polo, une jeune femme issue de la haute bourgeoisie. C'est une période d'accalmie avant une nouvelle tempête de l'histoire. Dans les années 1920, une bonne partie des Espagnols rêve de modernité. Le pays est beaucoup plus pauvre et moins industrialisé que ses voisins. Les mécontentements entraînent une crise politique et la République est proclamée en avril 1931. Le roi déchu, Alphonse XIII, quitte le pays en catimini. La gauche est largement en tête des élections. Une gauche tournée vers Moscou. Une partie d'entre elles veut même collectiviser les moyens de production et les terres. La République est fragilisée par une forte opposition entre la gauche et la droite conservatrice, soutenue par les généraux du pays. En 1934, une révolution prolétarienne éclate dans les Asturies, au nord-ouest de l'Espagne, après la victoire de la droite aux élections. Franco est envoyé mater la révolte avec l'armée. Il n'est pas du genre à faire dans la dentelle. Il finit avec le sang d'au moins 2000 personnes sur les mains. Ce fait d'armes sanglant lui vaut le surnom de « boucher des Asturies ». Cette violence est alors commandée par l'État, même si Franco a agi avec zèle. Mais la violence n'est pas l'apanage de la droite. Les républicains espagnols qui composent la gauche ne sont pas des enfants de cœur. Ils organisent une lutte des classes telle que Trotsky la fantasme. Le prolétariat veut manger du bourgeois. Dans les régions où la gauche est puissante, comme en Catalogne, les prisons pour les opposants aux républicains fleurissent. On y entre sur simple dénonciation. L'état de droit ne veut plus rien dire et les gauchistes les plus radicaux font régner la terreur. 2 ans plus tard, en 1936, le gouvernement formé par le Front populaire, la coalition de gauche, commence à redouter un coup d'état militaire. Mieux vaut éloigner les généraux ambitieux et respectés de l'armée. C'est ainsi que Franco est envoyé à Tenerife, dans les îles Canaries, au large des côtes africaines. En réalité, le général Franco n'occupe plus aucune fonction intéressante. Madrid l'a mis sur écoute, et il est constamment surveillé par les syndicats de gauche et les fonctionnaires. Pourtant Franco, à ce stade, ne tente rien. Aujourd'hui, les historiens pensent que ce n'est pas Franco qui est à l'origine du coup d'État qui se prépare. Pour le moment, il attend prudemment son heure en restant à distance de tout. C'est le général Emilio Mola qui est en train de préparer un coup d'État militaire avec l'aide des autres généraux conservateurs. Et c'est donc Mola qui fait savoir à Franco qu'il a besoin de lui pour prendre la tête des troupes stationnées au Maroc. Il lui trouve même un pilote d'avion partant d'Angleterre pour aller le chercher aux Canaries et l'emmener au Maroc. Au départ, Franco refuse l'invitation de Mola. Mais un événement le fait changer d'avis. Le meurtre sanglant d'un homme politique de droite, José Calvo Sotelo, par un groupuscule de militants socialistes parmi lesquels il y a des policiers, convainc Franco de rejoindre les généraux conjurés. Et les planètes s'alignent. Franco obtient de Madrid l'autorisation de quitter Tenerife pour se rendre à l'enterrement d'un officier qui vient de mourir. Il organise ensuite la fuite de sa femme et de sa fille vers la France, échappe à la surveillance de l'administration qui se méfie de lui et parvient à grimper dans l'avion que le général Mola lui a fait affréter. Dans la seconde moitié du mois de juillet 1936, le général Franco prend le contrôle des militaires espagnols basés au Maroc. Les régiments ont conservé leur loyauté à cet homme qui s'est tant de fois illustré sur ces terres hostiles. Mais encore faut-il rentrer en Espagne avec ses 30 000 hommes. Or, le général Franco a un problème. La marine fidèle à la République garde le détroit de Gibraltar. Le général a besoin d'aide. Il décide d'écrire aux 2 seuls chefs d'État européens susceptibles de lui venir en aide pour écraser l'engeance socialiste et communiste qui ravage son Espagne adorée. Ces 2 hommes sont Hitler et Mussolini. Pour découvrir la suite de ce récit, je vous donne rendez-vous sur votre appli d'écoute favorite. À très vite.